Bienvenue à Micro-Sillon. L'ambiance est bonne, le café est bon. Ah ouais, ah oui, ça c'est vrai, on est bien reçu. Bienvenue aux compagnons. Ah oui, hommage spécial dédicace. Micro-Sillon. Papa.
Alors, on en a peut-être oublié une phrase ou quelque chose de ce genre.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission du mois de décembre.
On va commencer par un interview Élise, l'association Wakadi, qui font de la radio éducative. Et ensuite, voyage, un départ en avion à destination de Cuba par Jean-Noël.
Ensuite, nous ferons une pause musicale en écoutant There Up Cyberpunk Got, une collaboration entre The Obscure Waves et Electro Live. S'en suivra une autre interview dans le cadre du festival de Wakadi avec Soro Solo, un animateur et journaliste de France Inter, faisant l'émission L'Afrique Enchantée et L'Afrique en Solo.
Ensuite, présentation du vécu de son exclusion de la société par Philippe.
Puis nous allons retrouver l'avant-dernier épisode de Jean-Pi et le bébé singe par Rodolphe. L'adaptation sonore délicieusement artisanale et rétro d'une histoire pour enfants. Elle sera suivie par la néo-philo-moé d'Alban. Il nous fait part de ses réflexions philosophiques.
Merci à tous. On espéra que vous passerez un bon moment avec cette émission.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Bonjour, une petite interview, on va faire vite parce que tu es dans l'organisation et il y a une autre chose qui se prépare. Donc je suis à Montpellier avec Wakadi. On a quelque chose à dire, une association qui date d'environ 15 ans et qui fait son troisième festival. Donc je vais la laisser se présenter, c'est celle qui nous a invités à venir, Élise.
Bonjour et bienvenue au festival. Bonjour à tous les auditeurs de Micro-Sillon. Donc Élise, je suis intervenante radio éducative pour l'association Wakadi, comme tu disais. On est donc basé à Montpellier et on propose des ateliers de radio éducatif. En fait, on utilise la radio comme un outil de médiation éducative et auprès de différents publics, des publics en général dits en difficulté. Donc ça peut être des jeunes sous main de justice, donc c'est des jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, ça peut être des jeunes qui apprennent le français, ça peut être des jeunes qui ont un handicap ou des adultes aussi. Ça nous arrive d'aller des fois en maison d'arrêt ou dans des endroits où on apprend le français par exemple, ou dans des collèges avec des classes SECPA. Voilà, on fait faire, donc l'objectif de l'association Wakadi, c'est de faire des émissions de radio, parce qu'on part du principe que tout le monde a quelque chose à dire et qu'il y a beaucoup de gens qu'on n'entend pas dans les médias, et c'est un peu notre mission qu'on s'est donnée de faire sortir cette parole. Et voilà, nos émissions, elles sont toujours en ligne sur le site internet de Wakadi, donc ça s'écrit O-A-Q-A-D-I, et on diffuse aussi sur des radios hertziennes, ici à Montpellier, Radio Clapas, Radio FM+, et puis Radio Sainte-Afrique aussi.
Ok, et comment t'es venue l'envie et l'opportunité de travailler dans cette association, sur ce festival, pour expliquer un peu le parcours?
Alors le festival, c'est donc la troisième édition, et l'idée est venue d'un des fondateurs de l'association de Wakadi, qui est Guillaume Marot. Ils sont deux à l'origine de cet asso, qui était éducateur PJJ, donc protection judiciaire de la jeunesse, qui utilisait la radio avec les jeunes avec qui il travaillait, et qui se disait que c'était vraiment un super outil pour gagner en confiance en soi, aller vers l'autre, découvrir des choses. Et ils ont eu l'idée donc d'élargir leur pratique radio à d'autres publics. Ils ont créé cette association. Et dans la même idée, Guillaume, il s'est dit à un moment, mais en fait, se rendez compte qu'il y a beaucoup de gens qui font comme nous, qui font faire de la radio, qui font de la radio avec d'autres publics que des professionnels qui sortent. Et il a eu envie d'essayer de créer un événement comme ça où on mettrait en lumière, on inviterait des gens qui font de la radio aussi, mais différemment chacun, pour essayer de échanger et fédérer, entre guillemets, pourquoi pas plus tard coopérer. Voilà, tous ces gens qui font de la radio chacun, sans savoir forcément qu'il y a une autre asso à Toulouse ou ailleurs. Qui a une pratique radio qui pourrait être intéressante à échanger.
Et pour finir, parce qu'on a dit qu'on ferait rapide, c'est comment vous fonctionnez, parce que l'argent c'est quand même le nerf de la guerre malheureusement. Vous avez des financeurs
Alors on a des financeurs, Wakadi ça fonctionne je dirais 70% au niveau des... grâce aux subventions à l'argent public, du coup. On va chercher des subventions. On est aidé par la DRAC Occitanie, par la ville de Montpellier, par les financeurs des contrats de ville de Montpellier, parce qu'on est basé, nous, dans un des quartiers, quartier Celle-Neuve à Montpellier, on a nos locaux. C'est un quartier prioritaire de la ville. On travaille beaucoup avec des jeunes de ces quartiers. On est aussi aidé par la CAF sur des projets notamment de séjour qu'on a lancé il y a 2 ans. On a lancé un projet de bateau radio où, en fait, on emmène des jeunes en bateau avec une association sétoise qui s'appelle Cap au Large, qui fait un peu ce qu'on fait avec la radio, mais en bateau, en navigation. Donc on part pendant une semaine avec des jeunes des quartiers prioritaires ou des jeunes accompagnés par des structures sociales pour un séjour où ils découvrent la voile et la radio, et on en fait un carnet de voyage sonore. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait une fois, qu'on refait au mois de novembre. Et par exemple, là-dessus, la CAF nous aide. Voilà, on a le département qui aide aussi pour la réalisation de ce festival. J'espère que j'oublie personne. Et le ministère de la Culture, oui, avec Médias de Proximité. Ça peut vous intéresser, ça, Médias de Proximité.
Donc, oui, Médias de Proximité à voir, mais je voulais dire par rapport à côté bateau, la navigation, vous découvrirez pas donc ce domaine-là avec J'aime le canal, si, parce que c'est un projet un peu novateur, mais vous avez déjà cette expérience de faire des traversées en bateau.
On a eu la même idée, en fait. C'est simplement ça que vous êtes partis sur le canal du Midi. Nous, on est plus sur la Méditerranée. Si on arrive à se rejoindre, vraiment, ça peut être chouette, hein, moi je dis oui.
Tout à fait, le contact avec cette association de 7, ça peut être intéressant pour nous. Donc voilà, mais si tu voulais rajouter quelque chose, site internet tu l'as dit, mais réseau social ou autre, je sais pas.
Oui, on est sur Facebook, donc Wakadi, personne ne sait jamais l'écrire, donc c'est les premières lettres de « on a quelque chose à dire ». Et je reprends juste, tu m'as demandé un peu mon parcours, et je précise que moi je viens plutôt du monde de la radio, et qu'à Wakadi on fonctionne toujours par binôme quand on intervient auprès de différents groupes, donc toujours avec quelqu'un qui est plus du milieu, qui est éducateur ou qui vient du monde éducatif ou social, et puis quelqu'un qui vient du monde de la radio. Voilà, c'est l'idée d'être complémentaire et pour pouvoir donner les outils pour faire émerger cette parole qui nous est chère. Merci Micro-Sillon d'être venu jusqu'à nous aussi.
Merci à vous de nous avoir invités, et j'espère que vous viendrez à Toulouse et qu'on pourra refaire des convergences ensemble. Au revoir.
Au revoir Vincent, merci beaucoup.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent.
Vous êtes sur l'émission, émission faite par des handicapés psychiques.
Mais alors, la boîte à édition, c'est le truc qu'on fait avec Nicolas Tilly.
C'est le
truc direct.
Alors, nous, c'est toujours l'émission.
Oui, c'est toujours l'émission.
D'accord. N'ayez pas peur de la maladie mentale, vous êtes déjà malade. La rubrique de Jean-Noël est constellée de musique sympathique, mais hélas non libre de droit. Donc on a à nouveau Alban et son engin en retranscription dans ce bref témoignage de voyage de Jean-Noël.
Prochain arrêt, les périples de Jean-Noël.
Amateur de musique latine, je me suis régalé à Cuba et en République dominicaine. J'ai été 2 fois en République dominicaine et 1 fois à Cuba. Ces 2 pays sont festifs. Je me suis régalé au son
de la salsa à Cuba
et au son de la bachata et du merengue en République dominicaine.
J'ai participé à un concert de
Buena Vista Social Club à La Havane, ainsi que à d'autres concerts à Cuba.
En République dominicaine, j'ai dansé le merengue avec une dominicaine sur un catamaran. Ces beaux pays ont des paysages paradisiaques et de belles plages.
Ils m'ont dépaysé et j'en garde un bon souvenir.
Oui, ce genre de rubrique ne marche pas tellement sur la version libre de droit vu qu'on ne peut pas entendre la musique. Tout était dans l'ambiance après tout.
Jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien.
Un peu de calme avant la tempête, Micro-Sillon.
Micro-Sillon avant la tempête.
Mmh. Sillon pour des émissions originales. Sillon pour des émissions originales. 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 Micro-sillon pour des émissions originales.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Bonjour à Solo Solo, qui est venu plus ou moins solo solo. voilà, à solo. Donc là, nous sommes au festival Wakadi. On a quelque chose à dire. La troisième édition, et vous êtes le parrain. Donc je vais vous laisser vous présenter.
Alors moi, à l'état civil, je m'appelle Souleymane Koulibaly. Et mais mon nom d'usage sur la place publique, le nom avec lequel je signe mes articles ou que je présente sur la radio quand j'en fais, c'est Soro Solo. Ou Solo, Soro, c'est interchangeable, c'est comme d'accord. Dupont et Dupont. Voilà.
C'est pas Zorro, Soro, c'est Soro, Solo.
Des fois, dans mon pays, du temps, je faisais la radio sur la radio nationale, vu l'émission que j'animais, qui s'est avérée un peu comme un réparateur de droit. Des fois, les gens m'appelaient Zorro, Solo. C'est Zorro de la justice, tu parles. Enfin, ça me plaît pas mal, oui, c'est Solo, Soro ou Soro, Solo, selon le premier mot qui vous vient à la bouche.
Donc, ça va. Comme on dit au Sénégal, vous le disiez sur une émission que j'ai pu écouter sur France Inter. Ça va donc, la forme avec le beau temps.
Ah ben ça ne peut pas ne pas aller. Quand on se retrouve dans un événement comme le troisième festival de la radio éducative et qu'on rencontre de belles personnes, on participe à des débats complètement constructifs, informatifs et qu'on a un beau soleil, que la météo est favorable, plutôt bienveillante vis-à-vis de tout le monde, forcément ça va bien.
Et le hall tropisme, donc ça fait un peu tropique également.
Ben je dois dire que le tropisme est tropical puisque vu la qualité du soleil, vu la qualité d'accueil aussi, la chaleurosité des gens qu'on rencontre, les sourires, les visages rayonnants, souriants, c'est un peu une couleur tropicale.
Et le lieu est original, il y a de la déco qui sort de l'ordinaire.
Franchement, j'ai été épaté par la configuration du lieu, par la scénographie du festival, tel que ça se représente, cette grande cour avec beaucoup d'espace, avec des tables en bois, où on peut manger, boire un coup, discuter avec les gens. Puis le hall, comment on a l'impression que c'est une friche industrielle qui a été réaménagée, mais on m'a expliqué que c'était des locaux de l'armée française, de la marine, je crois, et que tout ça a été cédé au public, enfin à la commune, et qui permet d'avoir un lieu comme celui-là, multidisciplinaire, dédié à la culture, aux rencontres sociales, à la découverte de l'autre. C'est forcément un lieu attachant, très très attachant.
Donc on va en revenir à votre émission sur France Inter et aussi par rapport à votre rôle de parrain. Comment on vous a contacté? Quelqu'un connaissait votre émission? Vous avez déjà vu de l'association peut-être?
Même si le gros du personnel de l'association Okadi ne me connaissait pas, mais par contre, l'un des acteurs de Okadi, qui est Jean-Jacques, lui me connaissait. Il connaissait l'émission et dans son association, comme il travaille avec pas mal de gens sur le territoire de la radio, et il nous a envoyé une fois, il y a quelques années déjà, une stagiaire qui a été donc stagiaire dans l'émission L'Afrique Enchantée, animée, coproduite et animée par Vladimir Cagnolari et moi-même, avec notre complice Hortense Vol. Donc forcément, du fait d'avoir ce contact avec Jean-Jacques, maintenant qu'il y a ce festival qui a lieu, qui a sa troisième édition, qui est le festival de la radio éducative, m'a dit, mais Solo, est-ce que ça te dirait de venir partager ton expérience d'homme de radio depuis ton pays, la Côte d'Ivoire, où tu avais une émission interactive, et maintenant aussi nous parler de l'Afrique enchantée avec Vladimir Cagnolari, et qui est laquelle des émissions s'est transformée en Afrique en solo. Le titre de l'émission est devenu L'Afrique en solo en 2015, mais c'était le même principe, le même contenu. Et donc voilà, c'est par Jean-Jacques. Je me retrouve au 3e festival de la radio éducative pour partager mon expérience avec le public d'ici.
Et votre collègue, donc c'est multiculturel parce qu'il s'appelle Vladimir comme en Russie.
J'ai l'impression, quand on voit le prénom de Vladimir Cagnolari, dont le prénom est Vladimir, on se dit, ah, c'est un un russe. Je pense que c'est, le père devait avoir une espèce d'attachement au prénom russe, puisque lui, Vlad, il s'appelle Vladimir, que nous on appelle communément Vlad, il a ce nom Vladimir qui fait très russe. Sa grande sœur s'appelle Sonia, qui fait aussi pas mal russe. Voilà. Donc Vlad, il est, oui, mais dans une certaine mesure, on peut dire qu'il est multiculturel, parce que jeune, quand il a fini ses études universitaires en ethnosociologie, il a décidé d'aller passer son mémoire à Madagascar. Il a donc appris à parler la langue malgache et il a pondu son mémoire dans cette grande île qu'on appelle l'île Rouge, qui est vraiment une sorte d'appendicite du grand continent africain. Mais au-delà de ce séjour à Madagascar, son frère aîné, qui est musicien, arrangeur, lui avait déjà visité le Burkina Faso. Et lui a, quand à son retour de voyage, de son séjour du Burkina Faso, il a énormément parlé de l'Afrique à son petit frère Vladimir Kanyolari et lui a fait découvrir les musiques de ce continent, notamment la bonne vieille rumba de la République démocratique du Congo ou les musiques mandingues du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso. Donc il s'est nourri de tout ça et aujourd'hui, franchement, de mon point de vue, Vladimir, c'est quelqu'un qui pourrait parfois mieux parler du continent africain que certains Africains eux-mêmes.
Donc il a pas mal voyagé et vous l'avez rencontré lors d'un périple, peut-être ?
Vladimir Kanyolari a pas mal voyagé dans sa vie. D'ailleurs, dans l'anecdote qu'il raconte, souvent il dit « Quand j'ai fini mes études, j'aimais trop voyager. Nos parents nous ont donné le goût du voyage et je me suis dit mais quel est le métier que je pourrais faire qui me permettrait de voyager ?» Eh bien, il s'est rendu compte que c'était le métier des journalistes reporters en radio. Et c'est comme ça qu'il a énormément voyagé. D'ailleurs, au moment où je vous parle au micro de l'association Micro-Sillon, actuellement, Vladimir, il est à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, où il est parti depuis 3-4 jours et où il va rester une dizaine de jours pour un reportage pour la radio diffusion de services publics qui s'appelle Radio France Internationale ou communément appelée RFI.
Oui, je connais, j'ai déjà entendu parler de RFI. Et donc là, c'est une case départ où le crocodile de je sais plus quoi, le film humoristique.
C'est une case départ. Et pour moi, franchement, me retrouver dans cette édition du Festival de la Radio Éducative, c'est une case départ parce que je découvre un tissu associatif très actif ici. Notamment, voilà, si je n'étais pas venu, je n'allais pas connaître l'association Micro-Sillon, groupe d'entraide mutuelle de Toulouse. Parce que je suis là, j'ai découvert votre association et donc ça donne envie de découvrir tous les acteurs et surtout les actions qu'ils portent sur le terrain, qu'ils accompagnent. Et forcément, ça m'interpelle parce que c'est dans la grande ligne de ce que j'ai envie dans ma vie professionnelle, dans ma vie quotidienne, le type d'action que j'ai envie de porter, d'accompagner, auquel j'ai envie de participer. C'est exactement ce dont je rêve et ce que je pense que je fais un peu dans mon travail de journaliste producteur radio.
Et il y en a qui vous découvrent aussi, des auditeurs qui ne vous ont pas forcément écouté. Mais que pouvez-vous dire donc sur votre émission L'Afrique enchantée, qu'on peut confondre, si on entend mal, on peut dire La flûte enchantée aussi. Voilà.
Absolument. C'est vrai que des gens nous ont fait un peu la blague régulièrement en disant « L'Afrique enchantée, la flûte enchantée ». Et comment résumer une émission dont la prétention et les objectifs étaient de raconter le continent africain à travers, en s'appuyant sur les musiques de ce continent. L'idée est née d'un constat. L'Africain que je suis et le Français qu'est Vladimir Kanyolari, on constate que de façon globale, en Europe et particulièrement en France où je vis, et les trois quarts des médias, que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse audiovisuelle, on évoque le continent africain quand il s'agit de parler de drame, de dictature, de la faim, de la misère. On évoque ce continent que dans ses quatre figures. Alors qu'il n'y a pas que des drames et des dictateurs et des corrompus et des escrocs sur le continent africain. Il y a aussi une Afrique qui agit, qui porte, où il y a des associations humanitaires, où il y a des associations sociales, où la société civile s'implique dans la création, le développement. Alors, comment raconter cet autre aspect de l'Afrique ?
On a trop de clichés et d'a priori sur beaucoup de choses et entre autres les pays qu'on dit du tiers-monde.
Voilà. Le constat, c'est qu'on ne retient les trois quarts du temps que les clichés du continent africain. Donc avec Vladimir Kanyolari, on s'est dit comment raconter ces Afriques-là sans vouloir pour autant occulter l'existence de dictateurs, l'existence de pauvreté, de misère. Mais il y a de la pauvreté en France, il y a de la misère en France, il y a de la dictature en France, mais elle n'a pas de nom. Nous, au moins, nos dictateurs, ils ont un nom et un visage. Le jour où on voudra couper la tête de ces dictateurs, comme les Français l'ont fait à la révolution de 1779, eh bien, on sait où les trouver. Mais le dictateur ici, en Europe, dans les pouvoirs publics. Il n'a pas de nom, il n'a pas de visage.
C'est une pieuvre.
C'est une pieuvre et c'est le système, le dictat de l'économie du capital sur les décisions politiques, sur le développement, sur l'action sociale. Donc ce dictateur, on ne le connaît pas. Bref, donc nous, pour raconter ces Afriques-là, à travers la musique, ça nous permettait de raconter des aspects culturels, qu'est-ce qui se crée, qu'est-ce qui s'invente culturellement. Et dans toutes les disciplines culturelles possibles, cinéma, littérature, musique, sculpture, art plastique, etc. Ou sur les politiques de l'Afrique. Et aussi, surtout, essentiellement, sur la relation de l'Afrique, de ces Afriques-là, avec leurs anciens colonisateurs, que sont la Grande-Bretagne, la France, pour la grande partie, et dans une moindre mesure, le Portugal et l'Espagne. Okay? Et on constate que certains mots, certaines problématiques du continent africain liées à la dictature, à la pauvreté, c'est parfois les fils sont ici. La racine est ici. Quand le monde occidental, la France, nous parle des dictateurs en Afrique, comment expliquez-vous qu'un président, le défunt président du Tchad, qui s'appelle Idriss Déby, à sa mort, Emmanuel Macron est allé à ses funérailles et du coup a validé l'acceptation de son fils comme nouveau président du pays. Et pourtant, il était présenté par tout le monde comme un dictateur. Et comment...
Il y a des magouilles dans la politique, trop.
Moi, pour le moment, je présente justement les faits. Et voilà un cas de figure. Quand nous, Vladimir Cagnolari et moi, on traite de la relation de l'Afrique et de la France, voilà des points qu'on va soulever pour présenter comment la France participe à entretenir ces dictateurs qu'on nous présente toujours en carton jaune ou carton rouge, comme sur un terrain de football. Mais ces dictateurs sont parfois entretenus par les puissances occidentales.
Vous mettez de la joie à travers des sujets sérieux, et c'est important de faire des choses comme ça. Et je tenais à vous demander, par rapport à votre parcours avant d'arriver à France Inter, comment ça s'est déroulé?
Pour résumer mon parcours, j'ai fait des études de journalisme et de production radio, le premier niveau dans mon pays, la Côte d'Ivoire, au studio école de la RTI. Puis je suis venu terminer mes études supérieures ici à l'Institut National de l'Audiovisuel et je suis retourné travailler dans mon pays sur la radio nationale qui s'appelle Radio Côte d'Ivoire où j'ai animé pendant plus d'une décennie la matinale. Mais globalement, j'ai travaillé pour Radio Côte d'Ivoire plus de 35 ans. Et ensuite, quand la guerre a éclaté dans mon pays, ma vie était en danger. Je me suis exilé, je me suis installé à Paris chez mon ami Vladimir Cagnolari et c'est comme ça qu'on a écrit le projet de l'Afrique enchantée ensemble qui a été accepté par France Inter et que nous avons animé ensemble de 2006 à 2015 et Vladimir parti pour d'autres projets n'avait plus le temps matériel de conduire et ce gros projet parallèle qu'il avait et la radio. Donc quand il est parti de l'Afrique enchantée, j'ai rebaptisé l'émission l'Afrique en solo et c'est comme ça que j'ai animé cette émission jusqu'en 2019 officiellement sur France Inter et je suis revenu l'été 2021 et j'ai pris ma retraite à France Inter en août 2021. Et maintenant, je suis journaliste producteur indépendant. J'ai donné des conférences, j'ai écrit des projets de radio pour des radios africaines, pour des radios associatives, etc.
Et une dernière question avant de vous laisser conclure, par rapport à la censure, parce que vous êtes quelqu'un qui dit des choses tout haut, qui ne plaisent pas forcément aux hautes sphères, au gouvernement. Comment ça s'est bien passé à France Inter? Parce qu'ils sont un peu sous la botte de tout ce système.
C'est vrai que quand on travaille dans une radio de service public qui s'appelle France Inter, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, les responsables qui sont nommés à la tête, les décideurs, sont forcément des postes politiques qu'ils occupent. Et qui dit poste politique, malgré la pancarte qu'on nous brandit de la liberté d'expression qui est partout ici, mais indirectement, c'est de vous encadrer pour que vous ne fassiez pas trop de pas de côté. En toute sincérité, j'ai Vladimir comme moi, on n'a jamais eu de sanctions parce qu'on avait traité d'un sujet délicat, dit hautement stratégique ou politique. On a traité, par exemple, que la France a expérimenté sa première bombe nucléaire en Algérie et que ça a donné des dégâts. Les dégâts de ces essais nucléaires, on n'en parle pas, mais on pourrait en parler un jour. On a raconté comment le général de Gaulle a favorisé l'installation d'un président comme Bongo ou d'un président comme Bokassa en Centrafrique ou Bongo au Gabon. Je veux dire, ce n'est pas politiquement correct de ressortir des sujets comme ça. Mais personne ne nous a tapé sur les doigts.
Des vieux dossiers.
Voilà. C'est des vieux dossiers sensibles. Nous avons pu en parler librement, sur France Inter, mais effectivement, on avait choisi le mode conversation, le mode libre, un peu ludique, avec la musique, pour ne pas avoir traité des
choses. Avec diplomatie.
Ouais, diplomatie, ça pourrait même paraître hypocrite, mais pour ne pas paraître, comment on appelle ça, pour ne pas attaquer l'animal de front, mais exactement. Quand on apprend à naviguer entre les récifs, on peut aussi raconter ce qu'on veut dire, dès l'instant où on respecte la règle de l'éthique, c'est-à-dire toute information qu'on diffuse, qu'elle soit vérifiée et vérifiable.
Les sources.
Les sources, voilà.
Mais merci de votre participation. Au plaisir de se revoir. Et si vous avez une annonce à faire...
Peut-être qu'au moment où vous allez diffuser ce sujet, j'allais dire, on vous invite à venir découvrir cet événement parce qu'on apprend beaucoup de choses. Ça m'a permis de découvrir l'association Microsillon et de voir le travail que vous menez auprès de certaines personnes qui ont un handicap physique et psychique, etc., et de l'accompagnement social que vous portez. Et donc, c'est important pour chacun d'entre nous pour découvrir des acteurs, parce que moi, je crois en l'effet d'imitation. Quand je vois une belle personne qui me porte un beau projet lié à l'humain, ça me donne envie aussi peut-être de m'engager. Et c'est pour ça que j'inviterai tous les auditeurs à écouter votre émission, à découvrir votre action pour pouvoir se rendre compte que tout n'est pas pourri dans ce monde.
Et la radio est un bon outil pédagogique pour cela.
Absolument. La radio reste un excellent outil pédagogique. En tout cas, comme dit le nom de ce festival, la radio éducative, la radio est certainement l'un des meilleurs moyens avec la lecture pour éduquer, pour faire évoluer les mentalités, pour faire découvrir l'ailleurs qu'on ne connaît pas, malgré les différences de cet ailleurs-là. Quand on le découvre, on se rend compte qu'on n'a pas autant de choses de différents, mais que nous avons plus de choses en commun que de choses qui nous opposent.
Et merci encore Soro Solo de la Frique Enchantée qui a pris sa retraite.
Voilà.
Et qui continue quand même, voilà, à France Inter, mais qui continue quand même son bonhomme de chemin. Et bonne continuation.
Merci bien.
Au plaisir.
Et bonne route à l'association Microsillon.
Plus que des mots, une radio.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent.
Et juste même partager un même. 35%, un tiers des Français qui indiquent être gênés à l'idée de partager un qu'une personne atteinte de maladie mentale.
Alors, la rubrique de Philippe a commencé par Golden Spoon de Pandora's Box. Et vous entendrez donc la voix d'Alban avec une angine à la place de quelqu'un qui présente à la rubrique en compagnie de Philippe au début et à la fin. Ou c'est au milieu. Désolé du problème. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs et bonjour Philippe Charc.
Bonjour chers auditeurs.
Alors pour votre chronique, de l'individuel au collectif était passé à l'émission du mois de décembre. Et là on a la chance d'avoir votre épisode numéro 2. L'émission de décembre dernier, à moins que ça n'ait été novembre, était Histoire d'une vie. Et là, vous allez nous parler des personnes
exclues, c'est bien ça ?
Oui, bien ça. Les personnes exclues. Dans les années 1980, j'étais chômeur de longue durée habitant une ville comme Paris et j'avais des difficultés à réaliser les causes de cet état de choses. J'étais en situation de handicap psychologique. Ma mère était ma curatrice et cela a été déclaré à l'administration depuis 1981 auprès du juge des tutelles à la mairie du 5e arrondissement à Paris. De ce fait, je suis bien loin d'être le seul à être dans cette situation bien différente de celle des autres. À l'occurrence, je me suis trouvé parmi les exclus, rejetés par la société. Mon cas était spécial. Cela est lié aux suites d'une enfance difficile, donc j'avais du mal à réaliser les causes. Le fait d'habiter Paris, la capitale où il y a le plus de possibilités de trouver du travail, vu la situation à laquelle je me suis trouvé, la pilule a été amère à avaler. Il aurait été plus facile de me résigner si je devais habiter une ville comme Lyon ou Toulouse, car ce sont des villes plus petites qu'une ville comme Paris, vu l'importance de l'agglomération. Et finalement, j'ai trouvé un travail au commissariat de la marine en septembre 1992. Mon sentiment pendant ces 10 ans de chômage, c'était très difficile à accepter. Je me sentais jugé vu à l'égard des autres. J'avais du mal à réaliser la situation
des personnes exclues. Quand je parle des personnes
exclues, j'entends des sans domicile fixe et des individus en situation de handicap ou des personnes qui cumulent des années de chômage.
Merci pour ce témoignage très intime et très intéressant. On parle justement de la difficulté à être écarté du marché de l'emploi. Oui. Et vous dites que c'était plus difficile à vivre finalement dans une ville comme Paris plutôt qu'une ville comme Toulouse ou Lyon, vous dites.
Parce qu'habitant une ville comme Toulouse et Lyon, j'aurais peut-être fait plus attention pour ne pas perdre mon emploi, comme ça a été le cas en 1981.
D'accord.
Et je n'aurais pas pensé que ça pouvait être aussi difficile dans une ville de province, compte tenu qu'il y avait tellement de possibilités, c'est la capitale à l'époque, trouver un job.
Alors dans votre parcours, vous nous parlez à la fois de la reconnaissance de la situation de handicap, mais aussi de votre période de chômage. Et puis ces deux choses-là sont liées à l'exclusion. Et moi, ma question, ce serait... Sans faire une échelle de valeur, c'est à partir de quel moment que vous avez pris conscience, là je suis une personne exclue. Est-ce que ça a été la reconnaissance de situation de handicap ou est-ce que ça a été plus une fois que vous avez été au chômage?
C'est une fois que j'étais au chômage que ça a pris.
D'accord. Avant ça, vous n'aviez pas ce sentiment?
Non, on n'était pas arrivé là, auparavant.
Merci beaucoup pour
tout ça. Et puis je pense que votre prochaine chronique... Ce sera sur les inégalités, c'est bien ça? Ça sera pour la prochaine fois. Merci à tous d'avoir écouté.
Micro-sillon.
Chers amis, bienvenue dans l'histoire de Jean-Pi et le bébé singe, une histoire racontée en 25 épisodes par votre ami Rodolphe Orville, d'après un texte de Claude Moirand, paru en 1963 aux éditions Hachette. Cette histoire, entièrement enregistrée sur bande magnétique, a été réalisée avec une musique sur pick-up stéréo tourne-disque. Petit détail, à l'écoute, si vous entendez un récurrent, c'est qu'il s'agit bien d'une fabrication artisanale. C'est le raccord de bande cassette. Réalisé en 1985 et remasterisé en 2018, de 63 à 2019, 56 ans plus tard, l'histoire est toujours là. Résumé général. Comment Jean-Pi, ayant récupéré par hasard un petit chimpanzé, est appelé à le faire adopter, non sans mal, par les habitants du pays des enfants? Aujourd'hui, épisode numéro 24, Babylas sauve le dernier chaton. Résumé de l'épisode précédent, Babylas a presque sauvé tous les chatons. Il n'en reste plus qu'un, mais la roue du moulin se remet à tourner. Babylas sauvera-t-il le dernier chaton?
Babylas ne comprend peut-être pas ce que dit Jean-Pi, mais il voit que le toit va le sauver.
Il bondit vers la gouttière, s'y accroche, et enfin se hisse sur la toiture sans lâcher le chaton.
On respire.
Pourtant, ce nouvel exploit de Babylas n'arrange pas tout. Comment le petit chimpanzé regagnera-t-il la terre ferme? L'échelle des pompiers n'est pas assez grande pour arriver jusqu'à lui. Il faut aller chercher une barque, dit quelqu'un. Mais pendant que nous attendons, le dernier chaton va mourir de froid! S'inquiète Ninouche, qui s'occupe des quatre rescapés et les réchauffe dans son écharpe. Soudain, Jean-Pi a une idée. Donnez-moi une corde, dit-il. Vous m'avez surnommé le cow-boy du pays des enfants, hein? Eh bien, vous allez voir. Toujours aussi crâneux, grogne Gontran. Jean Pu ne se donne même pas la peine de répondre. Le caporal des pompiers lui remet une longue corde. En toute hâte, Jean Pu forme un nœud coulant à son extrémité. Puis il enroule la corde autour de son bras. Fait tournoyer ce lasso. En plein dans l'eau, ce cri grand ravi. Bravo pour le commode. C'est du joli. Jean-Pi ne se décourage pas. Il lance le lasso une deuxième fois. Une troisième fois. Puis une quatrième fois. Et à la cinquième, c'est gagné. Le nœud coulant s'accroche à la cheminée. La foule applaudit Jean-Pi. Vexé, s'enfroigne. Babylas se met à danser la gigue sur le toit, serrant toujours le chaton sur sa poitrine velue. Puis, il s'approche.
Empoigne la corde d'une seule main
et se laisse glisser. Ensuite, il avance par petits bonds. Dans les bras de Jean. Ouf! Toute la population de Bourg-la-Fleur, animaux et enfants, se met en route pour accompagner Jean-Pi et Minouche jusqu'à la petite maison de garde-barrière. Minouche a en effet proposé de s'occuper des chatons en attendant qu'on ait retrouvé leur mère. Pendant que les singes devant son fourneau et leur fait boire un peu de lait tiède, Jean-Pi montre Babylas à la ronde. Intelligent, hein? Et sage. N'empêche que c'est un démon, dit Lisette têtue. En effet, on voit bien qu'elle n'a pas pardonné à Babylas de lui avoir arraché sa boutique. Et en voleur, ajoute Bonne-Pitié écarlate de colère.
C'était Jean-Pi et le bébé singe, raconté par votre ami Rodolphe Orville, d'après un texte de Claude Moirand. Chers auditeurs, pour la suite, rendez-vous le mois prochain, même heure, même fréquence. En attendant, gardez votre âme juvénile. À bientôt!
Il y avait plein de filles le mois dernier pour l'heure de Néophile au Moué. C'était bizarre. Épisode Mobuga, la question de l'exploitation. À l'épisode précédent,
on a effectivement décrit les aspects de la substance représentée par les Zetsubou Girls, comme quoi je la vende pas. Sauf que si, mais ça s'appelle les idées. En tant qu'Européen, j'ai une vision très judéo-chrétienne de la moralité. L'apprentissage de la moralité arrive par le pardon. Une personne lésée qui donne des scrupules à la personne méchante en lui octroyant son pardon. Supposons que les gens arrivent à se développer spirituellement de manière suffisante pour qu'ils choisissent le pardon et la compassion au lieu de la colère et la vengeance. Mais quand une personne profite d'une autre et que l'autre lui pardonne, la personne est également amenée à continuer à profiter de l'autre et de sa capacité de pardonner. Pire encore, la tolérance de la personne lésée commence à être jaugée par son profiteur qui s'arrogera des droits de plus en plus optimaux. Donc si la personne qui bénéficie de la grâce de l'autre a moins ou pire n'a aucun scrupule, ce qui est normal si la personne ne considère aucun sacré ou un sacré suffisamment lointain de la personne victime, le pardon est complètement inefficace, car la personne victime n'est plus une victime, car plus une personne, juste un pigeon. Donc ma question se pose ainsi, comment faire pour empêcher une personne de profiter de la capacité à pardonner d'une autre ? Les trois solutions les plus simples seraient, premièrement, l'intervention d'une tierce partie considérant ladite exploitation intolérable, ce qu'on prévoit déjà d'utiliser face au faux dieu quand on dispose d'une position de force et qui est une regrettable violation du respect elzathéen qui ne devrait pas être systématisé car on deviendrait des monstres nietzschéens et donc des faux dieux à force. Deuxièmement, imposer un sacré au profiteur pour l'amener au scrupule, ce qui est une violation et une falsification de la bonté universelle et cosmique et de la bonté naturelle de l'homme par l'intrusion du système de sacré d'autrui, le système précédent où l'on forçait la religion aux gens dans un monde de gloire. La troisième solution vise à ne plus rien pardonner et elle s'appelle la loi du talion. Là encore, un ancien système obsolète qui amènerait la ruine et la désolation d'un monde de gloire. Note, la troisième, première et deuxième non-solution coïncide dans l'ordre avec les trois premiers bits de l'amour et les principes de va-et-vient par le retour de bâton, de résonance avec la tierce partie et de projection, projeter son propre sacré sur l'autre. Forbid Hearts, là encore. Mais quelle est la solution liée au quatrième bit alors ? Quelle est la source psychologique de l'amour agapé si on a une ? Je n'ai pas pu trouver la réponse à cette question sur internet. C'est donc une question à laquelle nul n'a encore trouvé de réponse en plus de 3 millénaires, depuis l'aube de la civilisation. Mais dont la réponse est essentielle pour ramener l'humanité au sacré et faire rejaillir les scrupules et regrets qui l'amèneront au salut de l'homme devant Dieu ou la substance désormais immanente et amener l'homme à un respect qui n'est pas fondé sur la crainte d'une punition transcendante venue du ciel. Je finirai les articles expérimentaux de 2017 le mois prochain.
L'émission est terminée. Au revoir. On se retrouve.
Rendez-vous le mois prochain.
Chrono.